Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, trois accords internationaux destinés à mobiliser de nouveaux financements pour la République démocratique du Congo ont été approuvés par le Sénat. Ils concernent les investissements, le logement social, la filière cacao avec pour objectif de soutenir le développement économique du pays. Vous l'attendez dans ce journal. Plus de 50 dossiers examinés, 33 condamnations et plusieurs acquittements. C'est le bilan des audiences foraines au tribunal du grand instance et Kalemi achevé dans les territoires de Congolo après une dizaine de jours de travaux consacrés au traitement de plusieurs affaires judiciaires. Notre invité est Marius Mubalama, analyste sociopolitique et président national du mouvement Congo des valeurs. Il revient sur la plainte déposée par la RDC devant le Cour international de justice contre le Rwanda et analyse les enjeux juridiques et diplomatiques de cette procédure. Christian Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Attirer davantage d'investissements, développer les logements sociaux et améliorer les revenus producteurs de cacao, ce sont les objectifs de trois accords internationaux approuvés hier vendredi par le Sénat. Il s'agit notamment d'un partenariat économique avec les Émirats Arabes Unis, de l'adhésion de la RDC à la Shelter Afrique et d'un nouvel accord international sur le cacao. Que prévoit concrètement ces textes? Éléments de réponse avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Le premier texte porte sur le partenariat économique global conclu entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Il vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et à attirer davantage d'investissements dans plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, l'agro-industrie, les télécommunications et les services financiers. Selon le gouvernement, cet accord devrait également favoriser le transfert des technologies et contribuer à la création d'emplois. Le deuxième texte autorise l'adhésion de la RDC à Shelter Afrique, une institution financière panafricaine spécialisée dans le financement du logement et de l'immobilier. L'objectif est de mobiliser de nouvelles ressources pour soutenir le logement social et financer des projets immobiliers dans le pays. Enfin, le Sénat a aussi approuvé le nouvel accord international sur le cacao. Ce texte vise à renforcer la coopération entre les pays producteurs, à stabiliser le marché mondial du cacao et à améliorer les revenus des cultivateurs. Il encourage également la transformation locale de cette matière première afin de créer davantage de valeurs ajoutées en RDC.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, trouver de l'eau potable devient un véritable parcours du combattant dans la commune rurale de Lubero. Plus de 100 000 habitants auxquels s'ajoutent des milliers de déplacés sont confrontés depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau. Conséquence d'un réseau d'adduction devenu insuffisant à la croissance de la population. Ces situations exposent les habitants à des risques sanitaires et compliquent davantage leur quotidien. Martial Papimukeba nous explique ce qu'il en est.
La commune rurale de Lubero est alimentée en eau potable par 6 mini-réseaux d'adduction dont le captage se trouve dans les localités voisines. Mais ces infrastructures, construites il y a près de 40 ans, ne répondent plus aux besoins actuels. Plusieurs bornes et fontaines restaient à sec, notamment aux heures de forte consommation, obligea de nombreux ménages à passer plusieurs jours sans eau. Le directeur du réseau des adductions d'eau potable de Lubero, Mumberi Sadiki Kahunde, évoque un autre réseau, la forte croissance démographique.
L'eau ne couvre pas toutes les cellules de la commune à cause du délabrement très avancé des captages, même aussi des bornes fontaines de l'addiction qui datent de 1988. C'est la coopération avec Canada qui avait financé cette addiction en 1988. La cité de Lubero était habitée par 22 000 habitants. À nos jours, la population est passée à 102 000.
La commune rurale de Lubero accueille également plusieurs milliers de personnes déplacées, ce qui accroît davantage les besoins en eau potable. Béni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Je l'ai annoncé au sommaire dans la province du Tanganyika, plus de 50 dossiers ont été traités, 33 prévenus condamnés, une dizaine d'acquittements. C'est le bilan des audiences du tribunal de grande instance de Kalemi qui a siégé en chambre foraine dans le territoire de Congolo pendant une dizaine de jours. Ces audiences ont pris fin ce jeudi, signalant que le tribunal s'est déplacé grâce à la pluie logistique de PNUD. Paul Mounanga.
Les peines prononcées par les tribunaux de grande instance de Kalemie vont de 12 mois à 10 ans de prison. Les prévenus ont été condamnés pour vol qualifié, viol sur mineur, association des malfaiteurs et meurtre. Le procureur près le tribunal de grande instance de Kalemie précise que parmi la dizaine de prévenus qui ont été acquittés, il y a ceux qui ont été condamnés avec de larges circonstances atténuantes, ce qui fait que les années qu'ils ont passées en détention ont dépassé les peines qui ont été prononcées par les tribunaux. Charles Benjamin Tapale rappelle que l'objectif a été de désengorger la prison des Congolos. Signalons que les autorités judiciaires de Kalemie lancent un cri d'alarme aux partenaires agissant dans les secteurs de la justice afin de soutenir le tribunal de grande instance de Kalemie pour qu'il se déplace dans d'autres territoires du Tanganyika, notamment Manono, Moba, Nyunzu et Kabalo. Dans ces territoires, les détenus préventifs attendent d'être jugés depuis plusieurs années. Lubumbashi, Pone Munanga, Radio Okapi.
Meurtre, assassinat et justice populaire, c'est les tableaux préoccupants de la situation sécuritaire à Butembo et des environs au Nord Kivu. Tableau qui dresse le réseau pour le droit de l'homme, REDO. Dans son rapport semestriel publié hier vendredi, cette organisation basée à Butembo affirme avoir documenté plus de 40 cas de meurtre et d'assassinat au cours des 6 premiers mois de cette année. Elle dénonce la persistance de l'insécurité et appelle les autorités à renforcer la protection des civils ainsi que la lutte contre l'impunité. Martial Papimoukeba nous donne plus de précisions sur ces rapports.
Dans son rapport semestriel, les rideaux indiquent avoir documenté plus de 40 cas de meurtres, d'assassinats et de la justice populaire entre janvier et juin 2026 dans la ville de Butembo et les territoires voisins de Beni et de Lubero. L'organisation révèle que la commune de Bulengera est la plus touchée avec 10 cas enregistrés au cours de cette période. Face à cette situation, le coordonnateur du rideau, Maître Muhindo Wasivinywa, appelle les autorités à renforcer les enquêtes et à poursuivre les auteurs de ces crimes.
Pour les 6 premiers mois de cette année 2026, le Redo a documenté plus de 41 cas de meurtres et assassinats à ville de Butembo et Aviro. La commune Bulengera a enregistré plus de cas. 10. Le Redo recommande aux services de sécurité à plus de vigilance afin de prévenir le mal contre la population, aux instances judiciaires, civiles et militaires de mener les enquêtes sérieuses et ouvrir des dossiers contre les auteurs.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités de Butembo à propos de ces rapports. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Meurtre de 6 membres d'une même famille dans l'agglomération de Kabizo en chefferie des Bueto, territoire de Rutshuru, suscite de vives réactions. L'épouse du notable local Rugamba et 5 enfants, un garçon et 4 filles, ont été tués lors de l'attaque de leur domicile par des hommes armés dans la nuit de ce jeudi à vendredi dernier. L'armée congolaise et le mouvement FC-123 qui contrôle la zone s'accusent mutuellement d'être responsables de ces tueries. Des détails avec vous, Gloriane Lepeya.
Selon de sources locales, l'incident est survenu vers 21h le jeudi 2 juillet dernier dans la localité de Boutaré. Sur son compte X, l'FCM23 attribue l'attaque aux rebelles FDLR qu'il accuse d'agir en collaboration avec les FARDC. Une version rejetée par le porte-parole de la 34e région militaire. Le major Dieudonné Kasereka dénonce une campagne de désinformation visant, selon lui, à dissimuler les exactions commises par les éléments du RDF à FCM23.
C'est une campagne qui vise à désorienter l'opinion. Vous vous rappellerez que le 12 juin cette année, ils ont encore tué 9 personnes au village Rusamambu et Kanune dans les territoires de Walikan. Et la localité de Kabizo, c'est trouve dans la zone sous contrôle des M23. Mais ils accusent l'armée d'avoir collaboré avec les FDLR pour tuer les 6 membres d'une même famille.
Par ailleurs, des sources civiles indiquent que plusieurs responsables administratifs installés dans les entités coutumières sous occupation de l'FC M23 sont régulièrement visés par des attaques armées. Les cas de Kabizo s'inscriraient dans une série d'incidents similaires observés depuis quelques semaines dans la région.
Restons au Nord Kivu, une maladie non encore identifiée suscite l'inquiétude dans les secteurs de Bapéré, dans le territoire de Lubero. Selon la société civile locale, au moins 9 personnes sont décédées en l'espace de 2 semaines à Mangoumo, un carrier minier situé à environ 250 km de Butembo. Les victimes présentent notamment la diarrhée avant leur décès. Son président Samuel Kaeni appelle les autorités sanitaires à mener des investigations afin d'identifier cette maladie et d'éviter une éventuelle propagation. Il explique sa situation au téléphone de Martial Papimoukeba.
Aujourd'hui, on parle de 9 décès jusque-là.
Et on signale, bien sûr, aussi d'autres malades qui sont agonisants.
Ils présentent une diarrhée et c'est ce qui conduit, bien sûr, à sa mort. Les victimes sont recours, bien sûr, à des traitements traditionnels. Et ça, c'est déjà aussi un danger. C'est pourquoi la société civile lance une fois encore ses alertes. Et surtout, les villages se trouvent à une distance d'au moins 4 jours, 5 jours de marche. Il y a la population qui est en train de quitter
quitter pour venir se réfugier soit à Mangurejipa, soit à Ndiapanda, soit monter vers Lubero. Oh, en tout cas, les autorités sont appelées à prendre des mesures qui sont nécessaires en fait de voir comment détecter si cette maladie de ces décès sont liés à quel type d'épidémie, en fait de sauver les vies de cette paisible population et qu'on ne puisse pas enregistrer plusieurs cas de contamination au sein de la population.
Quittons l'est pour l'ouest du pays, un mort et un blessé grave, c'est le bilan d'une collision entre un corbillard et une moto sur la route nationale numéro 1. Accident survenu il y a peu au niveau du virage de Kisengo dans le territoire des Sekebanza. Vous avez compris, nous sommes dans le Congo central. Cet accident survient 72 heures seulement après un autre drame qui s'est produit sur le même axe routier où trois personnes avaient perdu la vie près du village de Kaidindi. Selon la police de circulation routière qui livre ces informations, l'excès de vitesse et le mauvais dépassement reste le principal cause de cet accident répété sur la nationale numéro 1. Élise Kavira pour plus de détails.
Selon les premières informations recueillies auprès des sources locales, un corbillard venant de Boma est entré en collision avec une moto qui roulait en direction de Kinzamvuete. Le conducteur de la moto a été évacué d'urgence au centre de référence de Kinzamvuete. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Son passager grièvement blessé reçoit toujours des soins dans la même structure sanitaire. De son côté, le conducteur du corbillard a été interpellé par la police et est actuellement entendu afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce nouveau drame relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur la route nationale numéro 1 où les accidents mortels sont fréquents. Les autorités locales appellent les usagers à plus de prudence et au respect strict du code de la route. Elles recommandent notamment de réduire la vitesse, surtout dans les virages et les zones à risque où les collisions sont souvent graves, d'éviter les dépassements dangereux, de respecter les distances de sécurité et de veiller au bon état technique des véhicules. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Sortir le jeune du Congo central de la théorie pour les amener vers le banc avec de véritables plans d'affaires, c'est le message fort lancé par Simplus Luka Outoma au jeune de Matadi à son retour de mission à Kinshasa. Le président du conseil provincial de la jeunesse du Congo central a pris part mercredi dernier aux consultations sur la réforme de la constitution ainsi qu'au lancement du conseil national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi de jeunes, un programme qui vise à accompagner le jeune de la création, la structuration et la maturation de leur projet d'entreprise. Selon lui, l'enjeu est clair, transformer les idées de jeunes en projets concrets, bancables et finançables auprès des institutions financières. On écoute Simplice Luka Outoma, il est au micro d'Elise Kavira.
Par rapport à ces consultations, nous nous sommes chargés d'organiser des colloques, des activités où nous allons réunir les membres de la société civile, les politiques de l'opposition, de la majorité, les étudiants, ainsi de suite. Nous allons essayer d'éclairer sur certains points dont le message nous a été donné par l'honorable président de l'Assemblée. Alors, concernant l'ANADEC, vous le savez très bien que c'est l'agence nationale qui accompagne la jeunesse sur le domaine de l'entrepreneuriat, sur les formations, ainsi de suite. Alors, le projet sera lancé d'ici là avec CONAPAS. Donc, nous serons avec, et déjà, dès ce lundi, au Congo central, la jeunesse serait bénéficiaire de formations pendant 2 ou 3 semaines et enfin de connaître ce qu'ils doivent faire pour ne pas échouer pendant les concours de CONAPAS. Les formations seraient gratuites et il n'y a pas une condition pour la jeunesse.
Actualité internationale.
Des nouvelles attaques terroristes secouent le Mali. Des djihadistes et leurs alliés indépendants Touareg ont mené ce samedi 4 juillet des assauts sur plusieurs fronts dans les localités de Gao, en effet, Agélik Nord, Sévaré Centre contre la prison de Kenouraba à 70 km de la capitale. L'armée malienne qui a confirmé cette nouvelle a fait savoir que toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées et que la situation est sous contrôle sans toutefois communiquer les bilans humains ou matériels.
L'invité.
La RDC a officiellement saisi la semaine dernière la Cour internationale de justice contre le Rwanda. À ce sujet, nous recevons dans ce journal Marius Mabalama, analyste sociopolitique et mukwegiste. Il est aussi président national du mouvement Congo des valeurs, COVAL. Étant mukwegiste, sa prise de parole s'articule autour de la responsabilité des violations de plusieurs conventions internationales, démarche engagée par Kinshasa depuis le vendredi 27 juin. Marius Mabalama s'entretient avec Benjamin Moudoumbi.
Monsieur Marius Mubalama, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes analyste sociopolitique et proche de Denis Mukwege. Alors, la RDC a officiellement saisi la semaine dernière la Cour internationale de la justice contre les Rwandais. Quelle lecture faire de cette plainte de la RDC contre les Rwandais?
Nous saluons, c'est une bonne démarche parce que vous savez que à la Cour internationale de justice, qui est la haute juridiction des Nations Unies, règle le différend entre les États, le différend entre le pays. Et notre pays, nous avions connu des problèmes avec les Rwandais. Nous avions connu des crimes contre l'humanité. Nous avions connu les crimes de génocide. Il y a eu des violences sexuelles. Il y a eu des exactions extrajudiciaires. Il y a eu des déplacements majeurs des populations et tant d'autres abus. Et les Rwandais étaient un acteur majeur. Ouais. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui que les Rwandais puissent répondre à toutes ces questions-là. Au niveau de la Cour internationale de justice, ce sont entre les États. Parce que les Rwandais n'agissaient pas seuls, ils agissaient à travers des personnes interposées, à travers des groupes armés, mais à travers aussi les forces de défense rwandaises à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, parce que les Rwandais est actif sur notre terrain, c'est dans notre pays. Et depuis l'époque du AFDL, il a soutenu l'AFDL, il a soutenu le RCD, le CNDP. Il est là aujourd'hui, les rapports l'attestent, avec le M23. C'est ainsi que nous disons que cette action auprès de la Cour internationale de justice doit être complétée par des actions aussi au niveau du pénal. Au-delà du Rwanda, il y a aussi des personnes individuelles. Ça veut dire que les responsabilités individuelles aussi doivent être rétablies pour que justice soit faite. C'est ainsi que nous, Mukwegistes, nous, au niveau de nos réflexions, nous avons toujours conseillé au gouvernement de travailler pour que la justice traditionnelle soit mise en place. Cela permettra à ce que, à travers les différents piliers de la justice traditionnelle, nous puissions connaître la vérité.
Par rapport à ça, vous pensez que la procédure n'a pas été respectée?
La procédure a été respectée, dans le sens que ça va opposer le gouvernement congolais contre le gouvernement rwandais. Ça, c'est un élément. Les responsabilités doivent être aussi établies au niveau pénal. Ça veut dire que des particuliers qui sont cités dans différents rapports, qui ont participé dans les crimes contre l'humanité, crimes contre les génocides, doivent être poursuivis, parce qu'il faut les signaler. Maintenant, la CPI aussi, maintenant, peut être activée pour suivre des individus qui sont impliqués dans les crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre.
Puisque c'est entre les États, alors si les Rwandais aujourd'hui n'admettent pas avoir commis ces crimes,
c'est pas que les Rwandais ne vont pas admettre d'avoir commis des crimes, parce que les rapports des Nations Unies existent qui engagent la responsabilité du Rwanda. Vous savez que dans notre pays, nous avions connu des crimes avant 2002, alors que la Cour pénale internationale a été créée en 2002. Ça veut dire que la Cour pénale était compétente de poursuivre certains crimes avant sa création. C'est ainsi que nous, à notre niveau, nous avions toujours plaidé à ce que qu'on puisse mettre en place un tribunal spécial pour la RDC. Ce tribunal-là pourra permettre à ce que les crimes, à partir de 1993 jusqu'en 2002, soient aussi poursuivis. La justice traditionnelle, à travers ces piliers, nous permet d'abord de connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qui sont les acteurs? Qui sont les victimes? À côté de ça, le troisième pilier, c'est la réparation des victimes. C'est là que Fonarev, le Frivao intervient. Et le dernier pilier de la justice traditionnelle, c'est cette volonté, n'est-ce pas, d'avoir la garantie de non-répétition. Parce que nous avons des cas de récidive. Vous rappelez-vous, Thomas Lubanga a été condamné par la CPI à purger sa peine. Mais lorsqu'il est rentré au pays, il a dit encore des responsabilités étatiques. Il a été envoyé, n'est-ce pas, à Nid pour sensibiliser les groupes armés à quitter la forêt. Mais malheureusement, il s'est encore jeté dans la rébellion. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, on peut voter une loi qui veut que tous ceux qui ont participé dans des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ne puissent plus faire partie de l'armée. Tous ceux qui sont cités comme des acteurs politiques dans les crimes contre l'humanité, qui ne participent plus, par exemple, aux élections, qui ne puissent plus occuper des postes de responsabilité. Et donc, nous appelons à ce que la justice traditionnelle soit implémentée.
Selon l'histoire, la RDC avait déjà déposé en 2006 une action contre les Rwandais pour des crimes commis à l'est du pays. Et la Cour internationale de justice avait déjà statué. Quel est cette fois-ci l'espoir derrière cette procédure pénale contre le Rwanda?
Aujourd'hui, les rapports mapping est là. C'est là que j'appelle aussi le gouvernement à travailler avec la commission d'enquête sur les droits de l'homme dans le nord et les sites qui existent déjà, qui sont en cours. Donc, le gouvernement congolais a intérêt de collaborer avec cette commission-là afin qu'on puisse recueillir, n'est-ce pas, le preuve. Toute personne qui est impliquée, qui est citée dans les différents rapports, puisse répondre à ses habits et que la justice soit faite à travers aussi l'implémentation de la justice traditionnelle, parce qu'on ne peut jamais penser construire la paix tout en marchant sur les attributs de la justice.
Marius Mubalama, je vous remercie.
Merci, messieurs les journalistes.
Fin de cet entretien avec Marius Mubalama, analyste sociopolitique et président national du mouvement Congo des valeurs. Il répondait aux questions de Benjamin Moudoumbi. C'est ici que prend fin cette grande édition de 18h. Christian Makassing était à la présentation de ce journal supervisé par Livin Mwinga, sous la coordination de Jean-Désiré Kanyama avec Pierre Diastino à la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Excellente soirée à toutes et à tous et rendez-vous à 19h pour votre dernier bulletin d'information de ce jour.